Devinette. De quels verbes ceux-ci sont-ils synonymes ? Adapter, aggraver, améliorer, augmenter, défigurer, innover, métamorphoser, périr, réduire, transposer, travestir, truquer, et j'en passe.
Pascal Paradou.
Une devinette au cœur du dictionnaire amoureux de la traduction signé José Camoun qui consacre quelques 500 pages de sa main pour dire sa passion à traduire les textes des autres. Bonjour José Camoun.
Bonjour.
Vous avez traduit une cinquantaine de romans, tous écrits en anglais. Philip Ross, John Irving, George Orwell, Kerouac, Virginia Woolf. Pour lequel votre cœur a battu le plus ?
Je pense que c'est de la même façon quand vous posez la question à un parent, lequel de tes enfants préfères-tu ? Et là, de toute façon, il va botter en touche, probablement avec bonne foi. Je ne sais pas, j'ai un fils unique, mais je ne pourrais pas répondre à votre question.
Mais pour autant, dans ce dictionnaire amoureux, vous dites que chaque fois que vous avez un manuscrit entre les mains, un nouveau manuscrit, vous avez une accélération du rythme cardiaque.
Oui, chaque manuscrit présente évidemment tout un potentiel de découverte, tout un potentiel de travail, de difficulté, mais aussi d'avancement de la réflexion. Bref, on ne sait pas ce qu'on a dans les mains, mais on le serre contre soi comme l'avare son trésor. Alors maintenant, c'est un peu plus rare parce qu'on les a généralement, évidemment, par mail. Mais quand même, il peut arriver qu'un éditeur vous le donne sous forme de papier. Et vous rentrez chez vous et vous le serrez pour le cas où il y aurait des feuilles qui s'échapperaient. Et vous vous demandez ce qui est en train de frémir entre vos mains.
Donc c'est une aventure, comme une aventure amoureuse presque.
Oui, d'ailleurs, j'évoque ce que j'appelle le trac amoureux quand on commence un texte. C'est-à-dire que quand on va à un rendez-vous amoureux, on est très heureux, mais on est anxieux aussi. On a une espèce de boule au ventre assez particulière. Eh bien, c'est ainsi qu'on découvre un livre à traduire.
Une langue, c'est un monde. C'est ce que vous avez découvert, vous en avez pris conscience en travaillant dans la traduction. Vous êtes donc celle qui nous fait passer d'un monde à l'autre ? C'est ça la mission, entre guillemets, d'un traducteur, d'une traductrice ?
Oui, sans aucun doute. Passer d'un monde à l'autre, ça a l'air comme ça simple et abstrait, mais en réalité, c'est toute une œuvre à la fois philosophique, technique, anthropologique, on pourrait dire, hein, et bien entendu, qui se double d'une composante émotionnelle qu'on ne peut pas nier.
À la devinette que je citais en ouverture d'émission, quelle est la réponse ? Le synonyme traduire ?
Traduire, c'est le seul qui manque, curieusement. Mais je l'ai trouvé sur Internet.
C'est vrai ?
Ah non, mais c'est pas de moi du tout.
Ah bon ? Je croyais que c'était vous qui aviez, non. Par déduction, découvert qu'il manquait ce mot-là comme synonyme.
Pas du tout. Internet est riche.
Mais ça veut dire que tant de verbes peuvent avoir un seul synonyme ? C'est ça le choix et le dilemme du traducteur, de devoir choisir dans une multitude de possibilités ?
Tout à fait, et aussi de s'apercevoir que rien n'est tout à fait synonyme de rien, bien entendu. C'est-à-dire que chaque synonyme va tirer le sens vers d'autres connotations, parce que la grande affaire de la traduction, c'est l'association. Le traducteur, c'est un filtre. Lorsque vous prenez la même page ou la même phrase et que vous la faites traduire par 13 personnes, c'est ce que j'ai fait dans l'entrée « Tous traducteurs », vous apercevez qu'il y a des différences petites et grandes et qu'aucune de ces traductions n'est fautive. Elles sont toutes différentes. J'ai d'ailleurs laissé une page en blanc pour le lecteur, pour que ce livre soit un peu interactif. Donc, mes associations ne sont pas les vôtres. Et mes associations vont me faire choisir un synonyme plutôt qu'un autre, vous voyez ? Et c'est infini.
Alors, vous laissez en effet une page blanche pour que je puisse éventuellement, ou tout lecteur, puisse éventuellement traduire la dernière page de On the Road de Kerouac, roman que vous avez traduit. Et donc, en fait, l'enjeu est de savoir si le soleil décline, descend, se couche, ou si l'on est au moment du soleil couchant. Puisque dans les traductions précédentes que vous citez, il y a toutes ces options-là.
Absolument. Et alors, évidemment, d'un traducteur à l'autre, tous les traducteurs auront compris à peu près la même chose. Je suis assez prudente, à peu près la même chose. Simplement, d'un traducteur à l'autre, nous allons avoir des associations différentes, comme on vient de le dire, et aussi des priorités différentes. C'est-à-dire que tel traducteur va vraiment entendre un certain rythme, il va entendre quelque chose, un son particulier, et il va se dire, ça c'est fondamental, ça je le restitue d'abord. Éventuellement au détriment d'autre chose. Donc chacun classe ses priorités différemment, qu'il en soit conscient ou pas, par ailleurs. Hein.
Mais vous traduisez à haute voix ?
Ah oui.
Ouais. Vous lisez l'anglais à haute voix et puis le français, vous essayez de voir si ça résonne de la même façon ?
Tout à fait. Tout à fait. Lorsque j'ai traduit ce roman de Philip Roth, qui a été traduit par La Bête qui meurt, The Dying Animal, l'auteur me l'a lu intégralement en arpentant la pièce. Il aimait faire ça. Il arpentait la pièce parce qu'il avait des douleurs de dos. Donc moi, j'étais assise en tailleur, par terre. Et il faisait sonner les phrases et il me disait « Et chez vous, c'est quoi ?» Et je disais ma phrase. Et il ne comprenait pas le français, mais on voyait si ça occupait à peu près le même volume sonore, si ça avait les mêmes rythmes, les mêmes ralentissements et les mêmes accélérations.
Alors, le soleil se couche ou décline chez Kerouac, selon les traductions. Il se couche ou se lève, en tout cas, toujours quelque part dans le monde, et il se passe toujours quelque chose ailleurs. C'est le nom et le sens de notre appel hebdomadaire. Ailleurs, dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion, avec Philippe Guirado. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du festival Comédie qui commence cette semaine. Comédie, c'est comédie en créole ?
Non, ça veut dire comme il parle en créole. Donc ça fait évidemment un jeu de mots avec le genre.
Et c'est la 16e édition de ce festival qui est un festival assez atypique car il veut mettre le théâtre à la portée de tous. Mais dites-moi, c'est une ambition énorme.
Oui, c'est une ambition énorme, mais tellement importante. Donc à la portée de tous, déjà par l'offre que nous proposons sur cette île de La Réunion, puis par l'accessibilité des représentations qui sont gratuites pour les élèves, plus de 11 000 élèves qui pourront assister à des représentations, et puis des tarifications entre 2 et 5 euros.
Et vous jouez aussi sur l'ensemble du territoire, pas simplement à Saint-Denis.
Alors non, d'ailleurs, c'est même un contre-exemple, puisque le festival est né à Saint-Joseph, dans le sud de l'île, qui a la particularité d'être la ville la plus australe de l'Union européenne et qui est une ville rurale. Et donc le festival est né à Saint-Joseph, mais il s'est développé pour s'étendre aujourd'hui sur 8 communes et va jusqu'à Saint-Denis.
Pourquoi vous avez eu envie de faire ce festival ?
Bah, tout simplement parce que nous étions dans une micro-région, le sud de la Réunion, où l'accès au spectacle vivant et à l'offre culturelle d'une façon générale était très faible. Nous avions des enfants et des jeunes qui cumulaient beaucoup de difficultés à la fois scolaires et sociales et n'avaient pas d'accès aussi à l'art et à la culture d'une façon générale. Donc on s'est mobilisé avec une bande d'amis pour créer un festival de théâtre afin de permettre à la jeunesse de pouvoir accéder à cette offre. Et puis le festival s'est développé et a permis également aussi au grand public de pouvoir venir le soir sur les représentations après que les élèves soient venus, eux, en journée.
Mais pourtant, il y a des compagnies sur l'île de la Réunion et il suffit de regarder votre programmation puisqu'il y a une quarantaine de compagnies invitées et c'est à parité des compagnies venant de métropole ou travaillant à la Réunion.
Il y a évidemment des compagnies de théâtre à La Réunion et nous avons beaucoup de talents dans tous les domaines sur cette île. Mais évidemment, la taille de l'île, la population ne permet pas d'avoir la même offre que ce que la France hexagonale peut proposer et l'Europe également. Donc nous avons par exemple cette année sur 45 spectacles proposés, tous professionnels, 16 compagnies réunionnaises. Ce qui est beaucoup, c'est presque la quasi-totalité des compagnies réunionnaises qui se produisent durant le festival.
Et c'est donc 30 000 spectateurs à peu près sur 10 jours.
Absolument.
Merci beaucoup Philippe Guirado. Comédie se déroule donc jusqu'au 4 mai dans l'île de la Réunion. Bon festival.
Merci beaucoup. Sur la piste.
Dancing frénétique de Françoise Breu sur RFI, extrait de son nouvel album intitulé Vif. José Camoun est aujourd'hui notre invité dans De Vive Voix, une cinquantaine de romans anglais ou américains traduits et aujourd'hui un dictionnaire amoureux de la traduction pour rendre compte de cette expérience et de cette passion. Comment devient-on, comment êtes-vous devenue traductrice, José Camoun?
Je pense que cette vocation, si c'en est une, ça me paraît un mot peut-être un peu dramatique, mais en tout cas, ce goût, cette prédilection m'est venue tout simplement avec le latin que j'ai appris en sixième, puis le grec en quatrième, puisqu'au fond, à cette époque, lisez, traduisez, c'était le nerf de l'enseignement des langues anciennes, qu'on appelait les langues mortes à l'époque. Je n'ai pas traduit de l'anglais tout de suite, tout simplement parce que précisément, c'est ce qu'on ne faisait pas, ce qu'on a fait plus tard. Mais mettre un texte en français, retrouver de l'idiomatisme en français, donner du nerf à une traduction, qu'elle ne soit pas mot à mot, c'est un exercice qui m'amusait beaucoup, tout de suite. Ça m'a amusé tout de suite et ça m'a amusé longtemps, comme vous voyez.
Donc du latin à l'anglais à et fait. À ce dictionnaire amoureux qui commence, alors pas du tout avec un auteur latin, mais qui commence par la lettre A, bien évidemment, avec Halayla ou Halayla, je ne suis pas sûr de la prononciation. Pour quelle raison?
Alf Layla ou Halayla.
Ah, c'est mieux.
Alors, ça devait s'appeler Aube. Pour la même raison. Eh bien, je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, je vais expliquer ce que ça veut dire. Il me semblait que Les Mille et Une Nuits était une traduction emblématique, une histoire emblématique des questions que soulève la traduction et des questions qui se sont posées aux traducteurs. La première étant bien entendu l'établissement du texte, puisqu'avec Les Mille et Une Nuits, on avait des textes issus du persan, traduits en arabe, qui pouvaient avoir aussi des influences indiennes, voire chinoises. On avait beaucoup d'oralité, des textes qui avaient été transmis par la tradition orale, mais on avait aussi des textes savants qui étaient réservés à l'éducation des princes. Donc on avait un ensemble. On ne peut plus hétérogène. Qu'allait-on faire? C'était la première question. Et la seconde, c'était à l'époque où Galland, Antoine Galland, qui était un érudit de l'époque de Louis XIV.
Le premier traducteur.
Le premier traducteur en français. Comment Antoine Galland allait-il apporter ce texte, apporter cette culture? Est-ce qu'il allait la servir aussi brute qu'il le pouvait? Ou au contraire, est-ce qu'il allait l'acclimater? Et s'il allait l'acclimater, comment? Et s'il l'avait acclimaté au bon goût français, ce qui fut le cas, dans quel esprit? Et comment ferait-on ensuite pour en restituer une saveur, disons, plus exotique? Et c'est toute une affaire. D'autre part, quand on a commencé, il a eu un gros succès. Enfin, la cour de France et les environs de la cour de France, si je puis dire, ont adoré ces turqueries majuscules, cette imagination absolument foisonnante, ces récits sans fin. Il les adorait tellement qu'on en a redemandé. Et il a pratiquement fallu en fabriquer. Ou en tout cas,
des faux, des fakes.
Alors, peut-être pas des faux, mais il a fallu en amalgamer au corpus, si on peut appeler ça un corpus, des Mille et Une Nuits. Par exemple, Aladdin ne vient pas de ce corpus-là. Et non seulement il ne vient pas de ce corpus-là, mais on peut penser que le fixeur de l'ambassadeur de l'époque qui avait été invité à la cour de Versailles se serait inspiré de la magnificence de la Galerie des Glaces pour décrire dans son récit le palais d'Aladdin. Donc vous voyez, c'est tellement un échange, une histoire d'échange, d'aller-retour entre Orient et Occident, comment l'Orient regarde l'Occident, comment l'Occident regarde l'Orient, qu'est-ce qu'on fabrique à partir de là. Et Alf Layla, Wallayla veut dire « mille et une nuits ».
Et puis si vous choisissez cette entrée par A, c'est aussi peut-être parce que traduire, c'est séduire. Et là, je vous cite, c'est bien une affaire de séduction par le verbe et non plus par l'épée.
Absolument, c'est l'histoire de Scheherazade, c'est la transformation du meurtre en histoire. Éviter le meurtre par l'histoire, séduire ou être décollé. Donc effectivement, je pense que la traduction est une séduction, mais à plus d'un titre. Parce que séduire, finalement, ça veut dire écarter de la route. Séduire, conduire à soi en écartant de la route. Eh bien, la traduction, c'est précisément ça, s'écarter de sa route. Et il est vrai que si nous n'avions pas un plaisir immense à découvrir les autres cultures, les autres histoires, c'est le cas des Mille et Une Nuits, mille et une histoires qui ne sont pas de chez nous, peut-être que nous n'aurions jamais traduit la littérature. Il y aurait d'autres raisons de traduire. Mais cette envie-là, elle est fondée sur la séduction d'autres choses, sur l'émerveillement, la surprise.
La surprise et puis la subjectivité ou la relativité, parce que dans toute traduction, il y a de la relativité. Pour le prouver, vous nous racontez d'ailleurs le mythe de la Septante. Je ne le connaissais pas du tout, mais il est assez formidable.
Oui, mais je ne le connais pas depuis 15 ans non plus, pour tout vous dire. Hein, parce que malgré tout, en 3 ans d'écriture, on découvre aussi des choses. On fait aussi des recherches. La Septante, c'est l'histoire de la traduction de la Bible, en grec. Hein, et donc, on a installé des rabbins dans toutes ces cellules différentes, 70, et on leur a donné la nuit pour traduire la Bible, en espérant bien sûr que l'Éternel allait leur donner un petit coup de main.
Oui, parce que c'est long quand même, la
malgré
Bible.
Tout. Et on s'est demandé ce qui allait se produire le lendemain, étant donné qu'ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Et bien entendu, le lendemain, toutes les traductions étaient semblables. Alors, c'est fort drôle, parce que ça assure, ça assoit la légitimité de la traduction de la Bible. Il y aurait des étagères entières à écrire, elles ont d'ailleurs été écrites en partie, mais ça voudrait dire qu'il y aurait une traduction exacte d'un texte. Or, d'une part, c'est totalement faux, bien entendu.
C'est bien un mythe. Hein.
Mais c'est un mythe fondateur. Mais il fonde quelque chose qui est, je dirais, tout à fait contre-productif. Parce qu'au fond, ce qui fait l'intérêt de la traduction, qui n'est jamais qu'un état secondaire du texte, en quelque sorte, on pourrait dire ça. Ce qui fait l'intérêt de la traduction, c'est cette mobilité permanente. À chaque nouvelle traduction, chaque nouveau traducteur va introduire composantes différentes, des allusions différentes. Il va tirer le sens vers lui, y compris ce qu'on appelle communément le contresens. Même le contresens enrichit l'œuvre. Donc si on considère que l'œuvre est en deux moitiés, la production et la réception, cette réception n'a pas de fin, et la traduction en fait partie, bien entendu. Donc, s'il y avait une traduction, il y aurait une vérité du texte. Mais il n'y a pas de vérité du texte, et la réception est infinie.
Et la réception évolue bien sûr aussi en fonction de la période dans laquelle nous vivons et des connaissances que nous avons à ce moment-là, parce que finalement, il y a des traductions qui vieillissent. Alors, elles restent d'autorité, mais elles vieillissent par rapport aussi bien à un style qu'à des contraintes temporelles ou historiques.
Vous avez raison, mais l'œuvre vieillit, elle aussi.
C'est vrai.
Donc, il faudrait se pencher sur cette question, et on peut le faire.
Alors, à ce propos, écoutez Nicolas Richard, qui a raconté son expérience de traducteur dans un essai au drôle de titre, « Par instant, le sol penche bizarrement ».
C'est difficile de traduire comme ça à la sauvage, sans savoir de quoi on parle, pour qui, à qui on s'adresse. Ça n'a pas de sens de traduire Rolling Stones si, dans un livre, si on parle du groupe. En revanche, si on parle de Pierre qui roule, eh ben, faut le traduire. Donc là, voilà, il faut affiner un tout petit peu. Et ce que je constate, mais c'est pas une idée qui m'est propre, c'est que les langues bougent constamment. Déjà, si on prend comme unique référent le français, on voit bien que le français bouge au fil des siècles, au fil des décennies, et même chaque année. L'anglais, c'est pareil. Et alors, le rapport entre les deux langues bouge aussi selon les chants. Je me souviens des premières traductions de Philip Ross, où le traducteur est obligé de faire des notes pour le baseball, de raconter ce que c'était, etc. Et maintenant, c'est tout à fait inutile, parce que la culture sportive anglo-saxonne rayonne davantage, ou en tout cas est peut-être plus accessible. Donc voilà, il n'y a pas de réponse brutale,
dogmatique. Il n'y a pas de règle. Mais non. Vous dites que baby, par exemple, vous ne traduisez plus baby. Chéri, c'est pas mal,
alors,
pourtant.
Oui, chéri, c'est très bien. Chouchou, trésor, il n'y a pas de souci. C'est vraiment selon le contexte.
José Caimoun, est-ce que vous êtes d'accord? C'est selon le contexte.
Ah, mais moi, je travaille à façon. Vous voyez, lorsque j'ai retraduit Sur la route, j'ai demandé à voir Antoine Gallimard pour savoir comment il voulait que je le fasse. Si c'était pour le pléiadiser, si c'était pour le grand... La traduction, c'est une pratique culturelle. Donc oui, je suis évidemment totalement d'accord avec Nicolas. Et pour cause, on en a souvent parlé de ces choses entre nous, lui et d'autres traducteurs. C'est une pratique culturelle. C'est pas dans un bocal, c'est pas dans une éprouvette. Ça veut dire qu'on a une commande, ça veut dire qu'on est à un certain moment de la culture. Et lorsque, pour donner un exemple très simple, hein, lorsqu'on se demande si La Mégère apprivoisée de Shakespeare est une œuvre féministe ou misogyne, il est clair qu'à l'époque de Shakespeare, on ne se posait pas cette question. Est-ce que pour autant elle est illégitime? Je ne crois pas. Est-ce qu'on ne peut pas y répondre? je ne crois pas davantage. Donc, effectivement, je crois qu'une autre traductrice disait « traduire, c'est conduire deux attelages de chevaux qui ne vont pas à la même vitesse ».
Sacrée affaire, quand même.
Sacrée affaire, vous voyez bien.
Alors, dans votre dictionnaire, José Camoun, vous avez consacré plusieurs chapitres, plusieurs entrées au vouvoiement et au tutoiement, et puis aussi au parler populaire, notamment dans 1984, le roman d'anticipation de George Orwell, que vous avez traduit, puisque vous avez proposé une nouvelle traduction en 2018. Et elle a fait causer cette traduction. Pour quelle raison ? Parce que vous rendiez visible le parler prolo, comme vous dites ?
Oh, ça, c'était rien. Elle a fait parler parce que j'ai décidé de la traduire, de traduire le prétérit d'Orwell par un présent français et non pas un passé simple. Ça, c'était un premier point dont je trouvais effectivement qu'on pouvait parler, qui pouvait prêter à controverse. Parce que j'ai traduit Newspeak autrement que par Novlangue, non pas parce que je trouvais Novlangue mauvais, mais parce que Novlangue s'était imposé dans la langue française et par conséquent affadi, finissait par vouloir dire langue de bois, technolecte, enfumage, alors que dans le roman, Newspeak, c'est la solution finale des mots. On ne pourra plus parler ni penser. C'est ça l'affaire. Donc je ne pouvais pas reprendre Novlangue, quoi que j'en ai. Et effectivement, on m'a même reproché, c'était très drôle, d'avoir fait parler les prolétaires comme ils parlent en anglais. Mais parce que la première traduction l'avait édulcorée.
Mais est-ce que ça veut dire que la traduction au cours des dernières décennies a invisibilisé justement ces patois ou ces façons populaires de parler ?
Non, non, c'est plus complexe que ça. Je pense que j'ignore pourquoi la première traduction n'avait pas fait parler les prolos comme ils parlaient en anglais. Pourquoi tout était édulcoré dans cette première traduction, je ne sais pas. Mon hypothèse, c'est que on a imposé à la traductrice, ou elle s'est imposée elle-même, une sorte de censure au nom des belles lettres. Un grand roman, un grand auteur, ça parle proprement et ça fait parler ses personnages proprement.
Il y aurait ça beaucoup... doit être bien écrit au
absolument,
sens
de l'académie. Absolument, bien écrit au sens scolaire du terme. Hein. Je pense qu'il y a de ça. Donc, venant 50 ans plus tard ou 70 ans plus tard, je ne sais plus, je pouvais me permettre des libertés qu'elle n'a pas eues.
Et de toute façon, vous êtes une avocate de la diversité de la langue. Et vous dites dans ce livre, ce dictionnaire, que finalement, aucune langue n'est homogène, que même ni vous ni moi n'avons une langue homogène, parce qu'on peut jurer comme des charretiers, avoir un niveau, un registre très élevé ou beaucoup plus trivial.
Moi, j'ai un grand plaisir à parler toute ma langue, tout ce que j'en connais. Et si j'en apprends un mot un jour, vous pouvez être sûr que je vais le recycler le lendemain.
C'est beau cette dimension de toute ma langue. Parce qu'on ne la parle jamais totalement,
mais
entièrement,
non,
jusqu'au
pourquoi,
bout.
Mais c'est pourquoi je vous dis, je voudrais parler toute ma langue, bien entendu. Il est clair que le matin, c'est l'exemple que je donne, quand on accompagne son enfant à l'école, il a 5 ans, on lui parle d'une certaine manière. Si on parle à la maîtresse d'école, on parlera différemment. Dans une réunion professionnelle, encore autrement, et sur l'oreiller, différemment, sans aucun doute. Donc, nous avons toutes sortes de registres, de niveaux. Nous susurrons, nous glapissons, nous parlons clair, nous parlons feutré. Et nous avons des expressions familiales, des expressions régionales que nous n'identifions pas comme telles. Et quand j'en emploie dans une traduction, ma relectrice me dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est pas une expression courante ? Ah ben pas du tout. Vous voyez, nous en avons tous.
Alors José Camoun, vous racontez votre histoire de la traduction, votre travail, votre amour pour ces textes, pour toutes les langues au pluriel et pas simplement pour l'anglais. Et puis vous évoquez aussi des sujets d'actualité, notamment l'intelligence artificielle. Quand certains s'inquiètent, vous semblez relativement sereine dans cet article du dictionnaire amoureux. Un peu à la façon de Barbara Cassin, qui elle aussi est optimiste, mais c'est vrai que c'est sa nature.
Il faut rendre l'intelligence artificielle plus intelligente, si on y arrive. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? C'est la somme de tout ce qu'il y a sur le net. Elle est nourrie de ce que nous avons mis sur le net dans toutes les langues. Et beaucoup de ces choses ne sont jamais que du globish, du global English, un mauvais anglais. Ça traîne et c'est nourri comme ça. Donc il faut les nourrir un peu mieux, ces bêtes-là. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps sur la traduction, enfin je continue à travailler, à partir de la notion d'intraduisible, c'est-à-dire de non-superposabilité des langues. Quand vous dites « bonjour », vous ne dites pas tout à fait « salam », vous ne souhaitez pas la paix, vous souhaitez juste une bonne journée. Donc à chaque fois, il faut comprendre ces différences-là, et évidemment, il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle les comprenne. Si vous ne lui inculquez pas le projet de partir de la différence.
José Camoun, vous signez ce que dit Barbara Cassin ?
Oui.
Petite hésitation.
Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, moi j'ai essayé, comme tous les traducteurs, j'ai essayé l'IA pour traduire, de laisser. La fiction, ne rêvons pas, mais de laisser. Et c'était presque utilisable. Mais tout est dans le presque. Finalement, ça m'aurait donné autant de travail de revenir dessus. Ça s'appelle du post-editing. Les étudiants en traduction sont formés à le faire. Donc pour l'instant, pour moi, ce n'est pas au point. Ce que Barbara Cassin expliquait aussi, c'était qu'en fait, l'intelligence artificielle, pour l'instant, était un vaste pool de tout ce qui avait été traduit. Donc lorsqu'un problème de traduction a été résolu par l'un d'entre nous, il figure dans ce pool et l'intelligence va pouvoir nous le renvoyer. Pourquoi je ne partage ni optimisme ni pessimisme, si vous voulez, c'est que peut-être que nous pouvons dire pour l'instant, instant T, ce que l'intelligence artificielle sait faire, personne de sérieux ne peut dire ce qu'elle fera dans 5 ans. Donc, si vous voulez, moi, je ne vais pas me répandre en propos oiseux là-dessus, parce que ce seront des propos oiseux. Pourquoi je ne suis pas forcément catastrophiste ? C'est que je pense que nous avons largement dépassé le précepte « il faut que tout change pour que rien ne change », parce que tout va changer. Quoi que nous en pensions, quoi que nous fassions, tout va changer, nous ne prévoyons pas comment. Donc, j'attends de voir.
Et vous finissez ce dictionnaire par une note d'anticipation avec Z, zoomusicologie, en nous racontant que finalement, la dernière limite, ce sera de traduire le langage des animaux.
Oui, et je trouve ça extrêmement excitant et pas du tout surréaliste. Et donc, effectivement, la dernière phrase de ce dictionnaire, je pense me souvenir que c'est « et nous décréterons la Pentecôte perpétuelle ».
Exactement. Ça veut dire que nous pourrons tous communiquer ensemble, ben, l'univers communiquera.
Comme au commencement.
Merci beaucoup, José Camoun. Dictionnaire amoureux de la traduction, c'est une collection chez Plon et en voilà donc le dernier exemplaire, 500 pages à dévorer, picorer. Quel mot traduire ? Quel mot rajouter pour ce dictionnaire ?
Je pense qu'il ne faut pas partir avec une idée préconçue, ce n'était pas la mienne. Donc se laisser guider, se laisser gouverner par son plaisir.
Merci beaucoup. Merci. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur la plateforme Pure Radio. À demain.